Donc, ce matin, on a hâte de partager la parole de Dieu. On va parler d'un message qu'on a commencé la semaine passée, la puissance d'une vie heureuse. Combien de vous voulez être heureux? Et, bon, j'aimerais que vous parliez avec moi ce matin. Hein? On va avoir un temps relax, on va avoir un temps vraiment en famille. Et avant d'aller dans la parole, il y a une chose qu'on aime faire ici à la Vie Comblée. On aime prendre nos Bibles. Si vous avez une Bible, je vous invite à la prendre dans votre main. Si vous n'avez pas amené une Bible, on a donné les feuilles à la porte avec presque tous les versets de la parole qu'on va lire ce matin qui sont écrits là-dessus. Donc, prenez cela dans vos mains et on va faire une déclaration de la foi. Parce que la Bible nous enseigne que qu'est-ce qu'on dit avec la bouche et ce qu'on croit de notre cœur s'accomplit. Donc, on va dire ceci. Voici ma Bible. Juste en passant. Est-ce que vous êtes content d'avoir une Bible? Savez-vous qu'il y a des personnes qui ont payé cher pour qu'on puisse avoir une Bible, avec même leur sang? Ils ont fait des sacrifices incroyables juste pour protéger le droit des hommes d'avoir une Bible. Donc, c'est une chose qu'on prend pour acquis des fois. On va le dire encore. Voici ma Bible. C'est la parole inspirée de Dieu. Et je suis tout ce qu'elle dit que je suis. Je possède tout ce qu'elle dit que je possède. Et je peux faire tout ce qu'elle dit que je peux faire. Je vais maintenant recevoir la semence incorruptible de la parole de Dieu. Et je ne serai jamais plus pareil, mais je serai changé et transformé de gloire en gloire dans l'image de Jésus. Amen! Alléluia! 1 Pierre chapitre 3, la puissance d'une vie heureuse. Et qu'est-ce que nous avons vu la semaine passée? Que Dieu veut qu'on soit heureux dans la vie. Et que c'est important qu'on soit heureux, pas juste pour notre propre bonheur, mais qu'est-ce qu'on va voir? C'est que votre bonheur fait partie du plan de Dieu pour la planète Terre, pour la race humaine. Et plus nous sommes dans la joie, plus nous sommes heureux, plus les gens qui nous entourent vont avoir l'occasion de connaître le Seigneur Jésus. Amen. Et combien de fois, moi, je suis convaincu que sur la planète Terre, personne ne devrait être plus heureux, plus content dans la vie que les chrétiens. Pourquoi? Parce que nous connaissons le Créateur du monde. Nous connaissons celui qui est l'auteur de la vie. Comme on a vu la semaine passée, il faut apprendre à célébrer la vie. Il faut développer une vie de louange. Il faut aussi pas juste célébrer et louer, mais il faut avoir un cœur reconnaissant. Parce que c'est Dieu qui nous donne la vie. C'est Dieu qui nous donne la respiration. Et c'est Dieu qui nous donne toutes choses, n'est-ce pas? Et ceux qui connaissent le Seigneur et qui connaissent l'auteur de la vie, c'est eux qui devraient être le plus heureux et c'est eux qui devraient avoir le plus de joie. Mais ici, en 1 Pierre chapitre 3, nous allons lire plusieurs exhortations que l'apôtre Pierre nous donne, qui sont vraiment, vraiment puissantes. Verset 8 de 1 Pierre 3 dit, « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez pas mal pour mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés. » Savez-vous que vous êtes appelés de Dieu? Alors, combien de vous savez que vous avez un appel sur votre vie? Souvent, on parle des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes, on dit, « Ah, ces gens-là, ils ont un appel sur leur vie. » Mais une chose qu'il faut savoir, et ça c'est vrai, mais c'est vrai aussi que chaque enfant de Dieu a un appel sur sa vie. Nous sommes tous appelés à connaître Jésus, nous sommes appelés à la communion avec Dieu. Mais ici, nous voyons un autre verset qui est bien intéressant, qui dit, encore on va le lire, ici en verset 9, « Ne rendez pas mal pour le mal ou injure pour injure, bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. » Donc, vous savez que votre appel sur la terre, c'est de bénir les autres. Nous avons un appel pour recevoir la bénédiction de Dieu, hériter la bénédiction, mais aussi en retour de bénir les autres qui nous entourent. Ça, c'est de fun, n'est-ce pas? Combien de vous aimez bénir les autres? Avez-vous découvert qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir? Et ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, on va trouver et on va découvrir quelques clés importantes qui vont nous aider à le faire. Puis, on va continuer verset 10. « Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie et voir des jours heureux, qui préserve sa langue du mal et s'élève des paroles trompeuses, qui s'éloigne du mal et fasse le bien, qui recherche la paix et la poursuit. Donc là, on a une belle recette pour une vie heureuse. Et dans les semaines à venir, on va étudier un peu plus à fond ces qualifications et ces critères pour avoir une vie heureuse ici sur la terre. Verset 12 dit, « Car les yeux du Seigneur sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières. Mais la face du Seigneur est contre ceux qui font le mal. Et qui vous maltraitera si vous êtes zélé pour le bien? D'ailleurs, quand vous souffrirez pour la justice, vous seriez quoi? Heureux! N'ayez d'eux aucune crainte et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs le Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous. » Donc là, on voit encore que plus nous sommes heureux, plus nous sommes dans la joie, plus les gens vont avoir le goût de nous poser des questions. Mais pourquoi est-ce que tu souris? Pourquoi est-ce que vous êtes toujours de bonne humeur? Pourquoi est-ce que vous avez de l'espérance quand tout ce qui se passe dans le monde est si négatif, il y a tant de problèmes, on va mettre du gaz dans le char et ça coûte cher, n'est-ce pas? Et puis, comment ça que pendant que vous êtes en train de tanker, que vous êtes capable de sourire? Parce que je connais Jésus, n'est-ce pas? Et mon Dieu pourvoira tous mes besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. Amen? Donc, vous savez, il faut avoir une différence entre nous et le monde. Le monde est souvent triste. Souvent, on va voir des personnes qui se promènent, puis, comme on dit, ils font le baboon, on dit, hein? Ils font des grimaces presque. Ils sont tristes. Ils sont pas heureux. Mais vous savez qu'est-ce qui est vraiment, 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 on pourrait dire, dommage? C'est quand on voit cela chez les chrétiens. Un chrétien qui est déprimé, un chrétien qui est triste, un chrétien qui n'a plus le goût de vivre. Ça devrait pas être le cas. Pourquoi? Parce que nous connaissons l'auteur de la vie, n'est-ce pas? Parce que Dieu veut qu'on soit heureux. Dieu veut qu'on soit joyeux. Est-ce que cela veut dire qu'on va toujours 24 heures sur 24 heures être en train de rire? Non. Il y a des moments, même dans la vie chrétienne, où on va avoir des larmes et on peut, même c'est biblique, même de pleurer avec ceux qui pleurent et de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais même si on a des moments de tristesse, c'est pas une tristesse comme la tristesse du monde qui n'a pas d'espoir. Exemple, quelqu'un qui est cher à nous va aller rejoindre le Seigneur, va décéder, c'est sûr qu'on va pleurer, c'est sûr que la personne va nous manquer. Mais vous savez quoi? On peut quand même avoir une joie au fond de notre cœur en sachant que un jour je vais le revoir. Amen? Donc on peut avoir des moments, je veux juste donner cet équilibre. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut peinturer un sourire sur le visage et que 24 heures sur 24, il faut toujours sourire. Mais dans le fond de notre cœur, on devrait toujours avoir la joie. Amen. Et même si on a quelques moments de tristesse, il faut que ces choses soient remplacées par la joie. Amen. Alléluia. On a quelques versets de la parole que je veux vraiment, vraiment regarder ce matin. Et je veux que vous écoutiez avec votre cœur, pas juste avec vos oreilles, pas juste avec votre intelligence, mais avec votre cœur ce matin. Parce que je crois qu'il y a plein de gens. Si on ferait un petit sondage ce matin, combien de vous êtes vraiment, je veux dire vraiment heureux dans la vie? Ne levez pas la main, mais je crois que probablement il y a un bon pourcentage de vous qui diraient oui, je suis vraiment, vraiment, vraiment heureux dans la vie. Mais si vous êtes honnête avec vous-même, je crois qu'il y a quand même un bon pourcentage de vous que si vous êtes honnête, vous direz, mais tu sais quoi, je ne trouve pas vraiment le bonheur. Je ne suis pas vraiment si heureux que ça dans ma vie. Et si c'est le cas pour vous aujourd'hui, les choses qu'on va partager dans la parole sont destinées à changer cela pour vous. Et moi, vraiment, mon espoir et ma prière, c'est qu'au bout de quelques semaines, après avoir terminé cette série, que si on ferait encore le même sondage, est-ce que vous êtes vraiment, vraiment, vraiment heureux dans la vie, que 100% de vous allez dire, oui, je suis vraiment, vraiment heureux dans la vie. Amen. Parce qu'aujourd'hui, comme je dis, on peut faire le sondage et trop des gens vont regarder les circonstances, les choses qui vont mal, les déceptions qu'ils viennent de vivre, les échecs qu'ils viennent de passer. Et puis ils vont dire, comment est-ce que je peux être heureux? quand je suis en train de vivre cela, ou quand les choses qui m'entourent vont si mal. Et qu'est-ce qu'on va découvrir dans les semaines à venir? C'est que peu importe qu'est-ce qui se passe dans votre environnement, peu importe qu'est-ce qui vous arrive dans la vie, que vous pouvez déterminer à être heureux dans la vie malgré tout. Amen? Et en fait, dans vos notes, la première chose que j'ai écrit, c'est que chaque personne, chacun doit prendre la responsabilité pour son propre bonheur. Combien de fois le problème dans la vie, c'est qu'on compte sur une autre personne pour nous rendre heureux. Dans un mariage, monsieur veut que madame lui rende heureux. Madame veut que son mari lui rende heureuse. Dans une église, dans une compagnie, dans n'importe quelle relation, on compte toujours sur l'autre personne de nous rendre heureux. Et combien de vous avez découvert que ça ne marche pas toujours comme ça? Est-ce qu'il y a des personnes, une personne ou deux, qui ont été déçues dans le passé? Juste lever la main cette fois-ci. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui avait vraiment mis leur espoir dans une autre personne et vous étiez convaincu que c'est cette personne qui va me rendre heureux? Je pense qu'on a tous fait cela. Moi, je l'ai fait et probablement vous l'avez fait, mais laisse-moi vous dire qu'il n'y a personne sur la planète Terre qui peut vous rendre heureux 24 heures sur 24, 365 jours par année. Amen. Mais il y a une personne qui est assise à la droite du Père, qui est rendue au ciel, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et si nous mettons notre confiance en lui, et nous avons une bonne relation avec lui, on peut être heureux et on peut être joyeux 24 heures sur 24, tous les jours de l'année et sans cesse. Amen. Regarde bien ce verset, en 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16 dit, « Soyez toujours joyeux. » Wow! Est-ce que la Bible exagère? Non. Soyez toujours joyeux. Tout le monde dit toujours.
Toujours.
Soyez toujours joyeux. Sauf quand le cadran sonne lundi matin et tu es fatigué et tu n'as pas le goût d'aller travailler. Non? Soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Joyeux. Sauf quand les enfants viennent de faire une gaffe. Non, soyez toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, sauf quand ton patron te demande de faire quelque chose que tu n'as pas vraiment le goût de faire. Non, soyez toujours joyeux. Amen. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Combien de vous voulez connaître la volonté de Dieu pour votre vie? Je viens de vous donner la volonté de Dieu pour votre vie. Soyez toujours joyeux. Amen. Alléluia. Tout le monde dit, je suis dans la joie. Puis, deuxième chose dans vos notes, et voici une clé. J'en ai parlé plusieurs fois dans le passé, mais ça vaut la peine de le répéter parce que combien de vous avez découvert que entendre une chose une fois n'est pas suffisant la plupart des fois. C'est pas qu'est-ce que tu sais qui fait la différence, c'est qu'est-ce que tu fais. Et la deuxième chose, on parle aujourd'hui de comment créer une atmosphère de bonheur. Parce que vous et moi, nous avons le pouvoir de créer une atmosphère de bonheur dans nos propres vies. Et la chose qu'il faut savoir, c'est que nous sommes appelés à prendre le contrôle et prendre la responsabilité pour notre bonheur. Et comme c'est marqué dans vos notes, il faut que nous soyons les thermostats et non pas les thermomètres. J'ai failli le confondre là. Combien de vous connaissez la différence entre un thermostat et un thermomètre? Combien de vous connaissez cela? Vous savez, un thermomètre fait quoi dans la vie? Un thermomètre va indiquer qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. S'il fait chaud dehors, un thermomètre, s'il fait 34 degrés, le thermomètre va dire il fait 34 degrés. S'il fait moins 34, le thermomètre va dire « Il fait moins 34. » Puis, combien de vous savez qu'il y a des chrétiens comme ça? Dépendant, qu'est-ce qui se passe dans la vie? « Hey, comment ça va aujourd'hui? » « Ça va mal. » Ou, il vient de gagner le loto ou quelque chose. « Ça va bien. » Je ne vous encourage pas de jouer au loto, par exemple. Vous comprenez la différence? Il y a des personnes qui sont très, très bons à dire qu'est-ce qu'ils ont et qu'est-ce qui se passe dans leur environnement. Mais ça, c'est un thermomètre. La parole de Dieu dit, c'est comme j'ai entendu une fois un prédicateur dire, la parole de Dieu dit que nous pouvons avoir ce que nous disons. Le problème, c'est que la plupart des chrétiens sont en train de dire ce qu'ils ont. Vous savez, il y a une différence. La Bible dit que tu peux avoir ce que tu dis. Le problème, c'est que la plupart de vous, vous êtes en train de dire ce que vous avez déjà. Est-ce que vous avez suivi?
Oui.
Parce que si tu ne dis que ce que tu as déjà, thermomètre, ça va mal. Oh, c'est pas bon. Mais mon patron, il blablabla. Mes enfants, blablabla. Mon épouse, blablabla. Ça va mal, ça va mal. Ça, c'est un thermomètre. Si tu dis toujours, oh, je suis pauvre, ça va mal dans mes finances, je suis malade, oh, je souffre, c'est pas bon, oh. Si tout ce que tu fais, c'est de dire ce que tu as déjà, c'est tout ce que tu vas avoir. Pourtant, si tu commences à dire ce que Dieu dit que tu peux avoir dans la vie, si tu commences à déclarer, appeler les choses qui ne sont pas comme si elles étaient, que, comme la Bible dit, que le faible dise, je suis fort. Le faible qui dit, je suis fort, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il devient fort. Mais le faible qui dit, je suis faible, je suis faible, je suis faible, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Il reste faible. Donc, vous savez, ça prend pas grand-chose et ça fait, un thermomètre ne fait pas grand-chose, sauf nous indiquer qu'est-ce qu'on devrait ressentir ou pourquoi on ressent une certaine chose. On peut être en train de transpirer, on est plein de sueur et « Oh, c'est chaud » et on regarde le thermomètre et dit « Ah, maintenant je comprends pourquoi je suis si misérable. » Parce qu'il fait 34 degrés et il y a 90% d'humidité dehors. Mais est-ce que ça a changé votre situation? Tu peux aller dire à tout le monde « Hey, tu sais quoi, il fait 34 aujourd'hui, il fait 34, oh, il fait chaud, oh, ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. » Mais tu vois, ça c'est un thermomètre, mais un thermostat fait quelque chose pour changer l'environnement, n'est-ce pas? Aujourd'hui, on a de la climatisation, ça fonctionne actuellement, on l'entend et on le ressent. On est bien dans la salle, n'est-ce pas? Mais si on prendrait le thermostat et on fermerait la climatisation, on aurait à l'intérieur de du bâtiment exactement la même condition qu'est à l'extérieur du bâtiment, n'est-ce pas? S'il fait chaud dehors, il va faire chaud dedans. S'il fait froid dehors, il va faire froid dedans. Et savez-vous, ça c'est exactement ce qui se passe dans votre vie. Dans votre cœur, dans votre âme, il faut régler le thermostat. Parce que si vous n'êtes qu'un thermomètre, si les circonstances de votre vie vont mal, vous allez aller mal dans le cœur et dans votre être intérieur. Amen. Mais si vous êtes en thermostat, vous dites, non, peu importe, oui, je vois les problèmes, oui, je vois les circonstances, oui, c'est vrai que mon patron n'était pas gentil avec moi, oui, c'est vrai que mon épouse n'était pas forcément de bonne humeur cette semaine, oui, c'est vrai que mon mari n'était pas tout à fait gentil avec moi cette semaine, oui, c'est vrai que on a eu de la difficulté à payer les factures ce mois-ci, oui, c'est vrai, je vois tout cela dehors, mais je règle le thermostat dans mon cœur et je dis que par la foi en Jésus-Christ, je suis plus que vainqueur et je suis dans la joie. Donc, peu importe qu'est-ce qui se passe autour de moi, en dedans de moi, je suis bien et je suis heureux et je suis dans la joie. Amen? Tout le monde dit, je suis un thermostat et non pas un thermomètre. Alléluia! C'est bien, bien, bien important. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour devenir un thermostat dans le corps de Christ? Pour avoir et vraiment créer une atmosphère de bonheur dans nos vies personnelles, mais aussi dans nos familles et dans notre église. Moi, je veux avoir dans ma famille une atmosphère de bonheur. On travaille là-dessus. Moi, je veux avoir dans cette église une atmosphère de bonheur. Que quand les gens rentrent dans l'église, qu'ils ressentent le bonheur. Que ça ne soit pas une place où les gens vont quitter étant plus déprimés à leur départ qu'à leur arrivée. Je veux que les gens arrivent à l'église, qu'ils aient hâte même d'aller à l'église parce que, ah, j'ai hâte d'aller à l'église parce que c'est une place où on ressent l'amour, une place où on ressent la joie, une place où les gens ont l'air d'être bien dans leur peau. Amen? Alléluia. Donc, dans les premiers versets de 1 Pierre 3, on trouve sept éléments, sept exhortations que l'apôtre Pierre nous donne. On va juste regarder brièvement ce matin sept choses qu'on peut faire pour régler le thermostat dans notre vie personnelle, dans notre famille, dans notre église. Il y a des choses que vous pouvez faire pour essayer de régler votre bonheur. Première chose, on va lire encore ce verset. « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments. » Donc, numéro un, dans vos notes, première chose que je peux faire pour créer une atmosphère de bonheur, je peux donner une priorité à l'unité de l'esprit. Savez-vous que quand il y a de la division, quand il y a de la chicane, que c'est pas trop de fun. Est-ce que vous êtes d'accord? Comme le veut dans un mariage, vous savez c'est quoi d'avoir une chicane. Tanya et moi, on a eu des moments où on s'est chicané. Et laisse-moi vous dire, c'est beaucoup moins plaisant, beaucoup moins agréable d'avoir un conflit ou d'avoir une division que d'être dans l'unité et dans l'harmonie et d'être en amour. Amen? Vous dites, le pasteur a eu une chicane avec son épouse? Oui, ça fait 21 ans qu'on est mariés. Une fois, ça s'est passé il y a 15 ans. Non. Non. Juste pour vous réveiller. Hein. Quelques-uns de vous, vous avez l'air un peu endormi. Elle est juste là, elle peut confirmer. Non. Mais on s'entend très bien dans le fond. Mais ça arrive des fois. Moi, j'ai un caractère. Mon tempérament, c'est colérique et elle aussi. Donc, c'est sûr qu'à l'occasion, ça peut causer les moments de communion fraternelle intense, on pourrait dire. Mais normalement, on s'entend très bien. C'est vrai, hein? Et moi, je suis en amour avec mon épouse. Mais vous savez que c'est pas par hasard qu'on vit dans l'unité de l'esprit. C'est pas par hasard qu'on a la paix dans notre mariage. C'est une décision qu'on a prise. Chacun de notre son bord, on a pris une décision de qualité de donner une priorité à l'unité. Je pense qu'on a tous besoin de faire cela, même dans le contexte d'une église. Regardons ceci. 1 Corinthiens 1:10. Je vous exhorte, frère, par le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à tenir tous un même langage et à ne pas avoir de division parmi vous, mais à être parfaitement unis. Si on dit parfaitement unis, dans un même esprit et dans un même sentiment. Ça, c'est qu'est-ce que Dieu veut pour nous. Dans notre église, Dieu ne veut pas que notre église soit divisée. Dieu veut qu'on soit dans l'unité. Amen. Et regardons bien. J'aime beaucoup ce verset en Romains 12, 18 qui dit, « S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. » Cela me montre un couple de choses importantes. C'est que, premièrement, c'est pas toujours possible d'être en paix avec tout le monde. Il y a des personnes qui vont prendre une décision de ne pas vouloir être paisible. Dans un mariage, si une personne prend une décision qui ne veut pas être gentille, la personne est quand même en libre arbitre. La personne peut faire qu'est-ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Mais moi, je crois que si nous, en tant que chrétiens, que nous prenons la bonne décision, que nous prenons toujours le premier pas, que nous allons, dans la plupart des cas, on va être capable d'influencer les personnes, même si au début ils veulent pas. Je crois qu'avec le temps, avec la prière, souvent on est capable d'influencer les gens de prendre une bonne décision, de garder la paix. Amen? On a vu ça combien de fois, on a vu cela. S'il est possible, et autant que cela dépend de vous, vous savez, c'est votre responsabilité de garder la paix. Oui, mais c'est lui qui a commencé le chicane. Oui, mais c'est à vous de régler. Aussi longtemps que vous êtes en vie, que vous respirez, c'est votre responsabilité. Autant qu'il dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. C'est-à-dire que moi, je devrais prendre toujours le premier pas. Les gens me posent la question des fois, c'est qui est responsable à régler un conflit? Moi, je dis la première personne qui se rend compte qu'il y a un conflit. Même si c'est l'autre personne qui l'a provoqué, on devrait toujours prendre un pas et dire, « Hey, tu sais quoi? Si je t'ai offensé, je demande pardon. » Et puis, de régler les choses, réconcilier les choses aussi vite que possible. Mais qu'est-ce qui arrive souvent? C'est qu'on dit, « Non, c'était moi la dernière fois, et le temps avant ça, et le temps avant ça, et le temps avant ça. C'est toujours moi qui prends le premier pas. Cette fois-ci, je refuse. » C'est lui qui va venir me demander pardon. Je bouge pas. Comme il y a personne ici qui a fait ça, hein? Vous me regardez comme, « Pasteur, de quoi est-ce que vous parlez? Hein? Je comprends pas ça. Hein? Je suis chrétien. » On sait tous qu'est-ce que c'est, hein, d'avoir ces sentiments des fois. C'est, non, c'est l'autre personne qui est dans le tort. C'est l'autre personne qui m'a fait mal. C'est l'autre personne qui va venir demander pardon. Mais savez-vous quoi? Des fois, c'est pas possible. Mais s'il est possible, et autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Donc, donnez une priorité à l'unité de l'esprit. Ça, c'est une chose que tu peux faire pour devenir un thermomètre. Vous ressentez un conflit, soyez quelqu'un qui va rechercher la paix. Essayez de chercher, soyez un agent de réconciliation. Amen? Alléluia. Numéro 2, cherchez les occasions de faire plaisir aux autres. Pourquoi est-ce que je dis cela? Parce que le verset 8 de 1 Pierre 3 dit qu'il faut être plein d'amour fraternel. Soyez plein d'amour fraternel. C'est quoi l'amour fraternel? C'est différent, c'est pas l'amour agapé ici. L'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Et dans le grec ici, quand la Bible dit « soyez plein d'amour fraternel », c'est le mot « philadelphos ». Là où vous avez entendu parler de Philadelphia, en Pennsylvanie, c'est la ville de l'amour fraternel. Ça vient de ce mot-là. Philadelphia vient de Philadelphia. Et qu'est-ce que c'est? C'est pas l'agapé. L'agapé, c'est un amour sans unique qui est vraiment sans condition aussi. J'aime une personne, mais j'ai pas forcément les émotions pour cette personne. J'ai pas forcément les sentiments d'amour pour la personne, mais j'ai pris une décision. Je vais aimer cette personne. L'amour agapé, c'est une décision qu'on prend, n'est-ce pas? Mais l'amour fraternel, c'est un amour qui est différent. C'est un amour qui cherche à faire plaisir aux sentiments de l'autre personne aussi. C'est un amour réciproque. Tout le monde dit réciproque. C'est-à-dire que si je suis vraiment quelqu'un qui marche dans l'amour fraternel, je vais chercher continuellement les occasions de faire plaisir aux autres personnes. Je sais qu'une telle personne aime une telle chose, je vais essayer de l'offrir à cette personne la chose qu'elle aime. Amen? Une personne aime faire des sorties au restaurant, on va inviter la personne à aller manger au restaurant. La personne aime les petits cadeaux, on va offrir les petits cadeaux. La personne aime les paroles valorisantes, on va offrir les paroles valorisantes à la personne. Et c'est une chose qu'on peut faire quand même unilatéralement, dans le sens que je n'ai pas besoin d'attendre que l'autre personne commence. Je peux commencer à faire ces petits gestes d'amour, faire ces petits gestes pour faire plaisir aux autres personnes. Et laisse-moi vous dire que ça va vous rendre tellement heureux dans votre vie. Moi, je sais. Combien de vous avez vécu cela? Offrir un cadeau à quelqu'un que vous savez que la personne était tout emballée, tout contente de recevoir le cadeau. Quel sentiment de bonheur que nous expérimentons après avoir donné et après avoir offert un tel cadeau. N'est-ce pas vrai? C'est la même chose. On donne et on reçoit. Donnez et vous recevrez. N'est-ce pas? Plus on donne aux autres, plus on reçoit. Donc, si les gens dans la vie veulent être heureux, il faut régler le thermostat. Comment est-ce qu'on fait cela? Comme on a dit, on donne une priorité à l'unité de l'esprit, mais on cherche les occasions pour faire plaisir aux autres. Romains 12, 10 dit, « Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. » Vous savez, l'affection va de pair avec l'amour fraternel, le philadelphien. C'est pas forcément une chose qui va de pair avec l'agapé, parce que des fois, on peut avoir l'amour agapé dans notre cœur sans aucun sentiment. Je ne ressens pas du tout l'amour pour la personne, mais je prends une décision de l'aimer. Encore vous. Hein? Je sais. Vous n'avez jamais vécu ça? Combien de vous, vous avez pris une décision d'aimer quelqu'un, mais dans le fond, dans les sentiments de votre cœur, l'affection de votre cœur n'était pas forcément là, mais vous avez pris une décision de qualité d'aimer la personne. Savez-vous qu'est-ce qui se passe souvent après avoir fait cela? L'amour fraternel embarque. Les sentiments vont suivre souvent. C'est vrai, n'est-ce pas? Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous êtes encore là ce matin? Vous êtes juste en train d'écouter, n'est-ce pas? Philippiens 2, 4 dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Donc, vous savez, ça, c'est une clé pour être heureux dans la vie. Dans un mariage, je vous assure que c'est une clé. Monsieur, si vous cherchez à vous faire plaisir, vous allez être frustré, vous serez déçu. vous serez peut-être même en train de penser, « Ah, pourquoi? Pourquoi est-ce que je me suis marié avec cette personne? » Madame, vous pouvez faire la même chose. Je dis cela parce que je le vois régulièrement. Les couples en difficulté, les personnes qui viennent me voir, qui ne sont pas heureux. Depuis 20 ans, j'ai vu un paquet de couples qui sont malheureux. Est-ce que vous avez rencontré des couples malheureux? Est-ce que vous étiez? Ne vous levez pas la main. Mais savez-vous, souvent le problème, c'est que chaque personne dans le mariage cherche à se faire plaisir au lieu de chercher à faire plaisir à l'autre. Et c'est, ça provoque la frustration. Si moi, mon devoir dans mon mariage, c'est de rendre mon épouse heureuse, et si elle, ça c'est qu'est-ce qui est de fun, si elle fait la même chose, ça c'est le ciel sur la terre. Amen? Que si son devoir et son but numéro un, c'est de me faire plaisir, mon but c'est de lui faire plaisir, ça c'est merveilleux. Mais ça marche dans une famille, entre frères et sœurs. Au lieu de chercher ses propres intérêts, si un enfant peut essayer de faire plaisir à l'autre dans la famille, ça c'est encore le paradis, n'est-ce pas? Le problème, les luttes, les chicanes sont provoquées selon Jacques chapitre 4, quand nous avons les désirs, nous voulons quelque chose, nous avons des convoitises qui ne sont pas satisfaits, et c'est ça qui cause les luttes, les guerres et la friction entre nous. Je veux, je veux, je veux. Si on peut oublier soi-même et penser, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que l'autre personne désire? Qu'est-ce que je peux faire pour aider quelqu'un d'autre dans la vie? Et une chose que je sais, si vous arrosez les autres, vous serez arrosé vous-même. Donnez et vous allez recevoir. Alléluia. Alléluia. Donc, numéro 3, ayez de la compassion pour ceux qui vous entourent. La Bible a dit ici, soyez plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité, mais ayez de la compassion. Je pense que si on ferme les entrailles de notre cœur, on serait le plus misérable des personnes sur la planète. Colossiens 3, 12 dit, « Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous d'entrailles de miséricorde, de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Vous savez que la compassion, c'est une chose qu'on peut choisir à mettre dans notre vie. C'est encore le thermostat. Je peux choisir d'être une personne pleine de compassion. Et si je suis une personne pleine de compassion, je vais devenir une personne heureuse. Amen? Mais si vous fermez les entrailles et si vous devenez endurci, puis vous avez un cœur qui est dur par rapport aux besoins des autres, vous allez devenir misérable. Acte 20, 35 a dit, « Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, « Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. » Amen. Numéro 4. Quatrième chose qu'on peut faire pour régler le thermostat, pour créer une atmosphère de bonheur, c'est qu'on peut marcher avec un cœur humble. Romains 12, 3 dit, « Marchez par la grâce qui m'a été donnée. Je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie de chacun. » Philippiens 2, 3 dit, « Ne faites rien par esprit de parti de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. » Savez-vous quoi? Les personnes les plus heureuses sur la vie, sur la planète, sont des personnes humbles. Les personnes qui se vantent, les personnes qui sont orgueilleuses, les personnes qui pensent qu'ils sont vraiment de quoi, dans le fond, ils sont misérables. Ils ne sont pas contents d'eux-mêmes. Ils n'ont pas une joie dans le cœur. Mais l'humilité est puissante parce que la Bible dit que Dieu donne sa grâce aux humbles, mais il résiste les orgueilleux. Donc, plus on marche dans l'humilité, plus on va marcher dans le bonheur. C'est l'autre chose qu'on peut faire pour régler le thermostat. Numéro 5, ne cherchez pas à vous venger. Avez-vous déjà eu l'expérience de vouloir vous venger? Quelqu'un vous a fait tort et c'est comme, juste à temps, je vais trouver un moyen, il va payer pour ça. Si vous riez, c'est parce que vous savez de quoi je parle, hein? Et on a tous des moyens différents de se venger. Des fois, c'est un traitement silencieux, c'est qu'on ne dit rien. Il y a des personnes qui sont comme des volcans qui vont exploser. Il y a d'autres personnes qui sont comme les frigidaires, qu'ils rentrent dans la pièce, on parle de thermomètre, c'est comme, oh, c'est froid. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Vous savez de quoi je parle, n'est-ce pas? Mais la Bible dit clairement, si on veut être heureux, ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ceux qui veulent se venger, c'est eux qui vont finir en prison. Prison spirituelle, prison émotionnelle, c'est eux qui vont souffrir plus que la personne qui a fait tort. Vous savez qu'est-ce que j'ai découvert? Souvent, j'ai vu des personnes qui ont été offensées et pendant des années, littéralement, des années, 5, 10, 15, 20 ans, il y a de la rancune dans le cœur. Et juste la mention d'un certain nom, il y a des émotions, des frissons, la colère qui commence à être comme une boule dans le cœur de la personne. Mais qu'est-ce qui est vraiment triste, que la plupart des fois, la personne qui les a offensés a oublié l'offense il y a déjà 15 ans. La personne n'est même pas au courant que tel monsieur, telle madame est en colère ou a de la rancune dans le cœur. Lui, il est en train de vivre une belle vie, et tout le monde est content et heureux, sauf la personne qui s'est laissée offenser. Et c'est lui qui est en prison. Amen? Est-ce que vous êtes là? Je vous donne quelques trucs de la parole pour régler le thermostat, pour créer une atmosphère de bonheur dans votre vie. Soyez un homme ou une femme qui ne se laisse pas facilement offenser. Quelqu'un vous fait quelque chose, c'est pas grave. Numéro 6, vivez comme une bénédiction ambulante. Je suis une bénédiction ambulante. Partout où je vais, les gens sont bénis. Amen. Ça, c'est le bonheur. C'est le fun de savoir que quand tu arrives sur une place, dans un endroit, que les gens qui vous entourent vont être bénis. Comment? Parce que toi, tu as la joie de l'Éternel dans ton cœur. Parce que tu dégages l'amour de Dieu. Parce que tu as le fruit de l'Esprit à manifestation. Et tu bénis les gens. Parce que tu marches dans toutes les bénédictions, la prospérité, tu es capable de semer, tu es capable de bénir, tu es capable de dire les choses édifiantes aux gens. Et partout où tu vas, les gens veulent être dans ta présence. Ça, c'est une bénédiction ambulante. Amen. Posez-vous la question. Est-ce que je suis une bénédiction ambulante? Quand j'arrive quelque part, est-ce que je dégage les bénédictions de Dieu ou est-ce que je dégage autre chose? Posez-vous la question. Ouais, mais tu sais pas dans quel environnement je travaille. Mais, est-ce que vous êtes en thermomètre ou en thermostat? Quand vous arrivez dans un endroit, est-ce que l'atmosphère change? Ou est-ce que vous vous laissez changer par l'atmosphère? Je vais le dire encore. Quand vous arrivez dans un endroit, est-ce que l'atmosphère change? Ou est-ce que vous vous laissez changer par l'atmosphère? Hein? Si tu travailles peut-être dans une place où tout le monde est négatif, tout le monde a une habitude de critiquer les autres, est-ce que vous tombez dans le piège de commencer à critiquer les autres aussi? Ou est-ce que vous dites, non, je vais régler ça! Je vais dire des choses positives sur le patron au lieu de le critiquer. Qu'est-ce que vous faites? Amen? Donc, devenez une bénédiction ambulante. J'aime beaucoup ce verset en Genèse chapitre 12, verset 2. « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » J'aime ça. Dieu veut faire de nous une source de bénédiction. Tout le monde dit « Je suis une bénédiction ambulante. » Amen. Alléluia. Et c'est à vous de prendre une décision. Numéro 7, on va finir ici. Réclamez vos bénédictions afin de bénir les autres. Savez-vous, on ne peut pas donner aux autres qu'est-ce qu'on n'a pas reçu. Et la bonne nouvelle, c'est que selon Éphésiens 1:3, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Vous êtes déjà bénis avec toutes les bénédictions de Dieu. On a lu cela il y a quelques semaines, David en 2 Samuel 7. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu, et tes paroles sont vérité, et tu as annoncé ces cette grâce à ton serviteur. Veille donc bénir la maison de ton serviteur, afin qu'elle subsiste à toujours devant toi, car c'est toi, Seigneur éternel, qui as parlé, et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Ici, on a David en train de prier, « Seigneur, bénis ma maison !» Pourquoi? Parce qu'il savait qu'il venait de recevoir la parole de Dieu, que Dieu allait prendre un membre de sa famille et le mettre sur le trône d'Israël pour toujours. Donc, David savait que si je suis béni et ma famille est bénie, le plan de Dieu va s'accomplir pour Israël. Et il faut que vous ayez cette révélation. Regardez-moi, je sais qu'on a rempli le dernier blanc. Mais regardez-moi juste une minute parce que c'est bien important. Il faut que vous ayez la révélation de ceci. Que si le monde qui vous entoure va être béni, il faut que vous soyez capable de recevoir la bénédiction de Dieu pour vous-même. Pensez pas que c'est égoïste d'être béni. Au contraire, c'est pas égoïste d'être béni. Si je veux bénir les autres, il faut que je sois vraiment béni. Si je veux partager ma joie avec les autres, il faut que je sois vraiment rempli de joie. Si je veux aider les pauvres, il faut que je sois béni, n'est-ce pas? Si je veux donner de quoi manger à ceux qui n'ont rien, il faut que j'ai de quoi. Amen? Donc, en quelque part, je pense qu'on a besoin de changer notre façon de penser. Si je veux devenir une bénédiction ambulante, il faut que je reçoive les bénédictions de Dieu afin de bénir les autres. Je suis béni pour bénir. Demandez, Dieu veut me bénir pour faire de moi une source de bénédiction. Alléluia. Les thermomètres, non pas les thermostats. Comment créer une atmosphère de bonheur dans votre vie? Si Tania peut venir au piano, ce matin, on va recevoir la Sainte Cène. Moi et mon épouse viennent de me dire que j'ai dit, j'ai pas dit comme faut, on va être les thermomètres et non pas les thermostats. Non, c'est ça, je l'ai bien dit. Mais là, je suis tout mêlé. On va régler l'atmosphère dans notre vie. Quand on arrive quelque part, on va changer l'atmosphère. On va pas se laisser changer par l'atmosphère. C'est-à-dire, on va être les thermostats et non pas les thermomètres. Mais ce matin, je pense que c'est vraiment important. Parce que on parle de la puissance d'une vie heureuse. Si vous et moi ne sommes pas heureux, le monde qui nous entoure n'aura pas le goût de connaître Jésus. Mais si nous sommes dans la joie, si nous sommes heureux, si nous sommes en train de marcher dans l'unité, de faire plaisir aux autres, d'avoir la compassion, d'être humble, de ne pas se laisser offenser, de vivre comme les bénédictions ambulantes et de réclamer nos bénédictions pour pouvoir bénir les autres. Si nous sommes en train de vivre cela pour vrai, le monde va avoir le goût de connaître Jésus. Donc, ce n'est pas du tout égoïste notre affaire. Au contraire, je veux que cette ville soit changée. Je veux que cette province soit changée. Et les personnes de notre ville, notre province et la francophonie ont besoin de voir les hommes et les femmes chrétiens qui sont bien dans leur peau, qui sont heureux dans la vie et qui savent créer une bonne atmosphère de bonheur. Mais avec tous les yeux fermés, on va prier ce matin. Parce que je crois que le Seigneur a mis dans mon cœur ce passage, ce verset. Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées, des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Ne rendez pas mal pour le mal ou injure pour injure, mais bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Je suis avec tous les yeux fermés. Hein? Tous les dimanches matins, on aime donner une occasion aux hommes et aux femmes qui sont ici, que si par chance, il y a quelqu'un qui vient qui n'a jamais donné leur vie à Jésus, peut-être c'est le cas ce matin, vous n'avez jamais donné votre vie à Jésus. Vous n'avez jamais confessé avec votre bouche le Seigneur Jésus, vous n'avez jamais cru dans votre cœur que Dieu l'a ressuscité des morts. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir la vie éternelle, c'est un don gratuit. La Bible dit que si tu confesses avec ta bouche le Seigneur Jésus, et tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que tu seras sauvé. Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui aimerait faire cela ce matin, juste en me levant la main, disant, « Pasteur, j'aimerais que tu pries pour moi. Je veux donner ma vie à Jésus. » Oui, il y a une personne. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre ce matin qui dirait, « Oui, j'ai besoin de donner ma vie à Jésus. » Je vais demander une autre chose. Peut-être vous avez déjà donné votre vie à Jésus, mais vous n'avez jamais eu l'expérience de recevoir le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence de parler une autre langue. Ça, c'est un don qui vous appartient, qui va vous donner la force et le pouvoir dont vous avez besoin pour vivre cette vie joyeuse. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui lèverait la main et dit « Oui, j'ai besoin de cela ce matin. » Alléluia, oui. Il y a une personne, même personne pour cela. Qu'est-ce qu'on va faire? Parce que ce matin, on va prendre la Sainte Cène. Et c'est ouvert à tout le monde qui veut. Et aussi longtemps que vous avez vraiment donné votre vie au Seigneur Jésus, vous avez la conviction dans votre cœur que vous êtes enfant de Dieu. Vous êtes invité à prendre la Sainte Cène avec nous ce matin. Mais avant de le prendre, je veux prier, surtout avec le monsieur qui a levé la main, pour qu'il puisse donner sa vie au Seigneur Jésus. Comme ça, lui aussi, il va être capable de le prendre avec nous, comme un nouveau membre de notre famille. Donc, est-ce qu'on peut tous prier cette prière, et surtout toi, monsieur, qui a levé la main. On va prier cette prière à haute voix. Père Céleste, on vient à toi, et je viens avec un cœur bien disposé. Et je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est mon Sauveur et mon Seigneur. À partir d'aujourd'hui, je vais vivre pour Jésus. Je crois de tout mon cœur que Jésus est ressuscité. Je crois de tout mon cœur que mes péchés sont pardonnés et que je suis né de nouveau. Je suis une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Je suis sauvé. Je suis ton enfant. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur pour lui ce matin? Alléluia. Donc,